Tendez l'oreille, dit l'Éternel, écoutez, et votre âme vivra. Nous allons écouter la parole de Dieu en Colossiens 1. Je vous invite à y tourner dans votre Bible, si ce n'est déjà fait, à la page 227 dans notre Nouveau Testament. Nous allons écouter la lecture de Colossiens 1, 1 à 11 ce matin. Et nous le ferons après avoir prié. Prions d'abord. Éternel notre Dieu, ta parole est bonne, elle est forte, elle est puissante pour sauver, pour sanctifier tes élus. Merci de nous la donner. Merci de nous donner une nouvelle occasion de l'écouter. Que ta parole ce matin, Seigneur, ne nous laisse pas indifférents, mais qu'elle nous rejoigne, qu'elle descende au fond de nous, qu'elle accomplisse son œuvre de renouvellement, son œuvre de salut, son œuvre de transformation. Tu vois, tu connais parfaitement chaque personne ici présente. Tu vois ce que chacun a besoin. Te demandons de nous faire du bien à l'écoute de ta vérité, car nous nous réfugions auprès de toi par Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Écoutons ensemble la lecture de Colossiens 1, 1 à 11. Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous prions sans cesse pour vous. Nous avons en effet entendu parler de votre foi en Christ Jésus et de l'amour que vous avez pour tous les saints. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de vérité, celle de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Cet Évangile est parvenu chez vous, tout comme il porte des fruits et fait des progrès dans le monde entier. Il en est de même chez vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu selon la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle ministre du Christ et il nous a signalé de quel amour l'Esprit vous anime. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue. Portez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. Devenez puissants à tous égards par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérants et patients. Amen. Quel est le moyen établi par Dieu pour que nous puissions nous approprier des bénédictions que le Fils de Dieu a acquis pour nous? Ce moyen, c'est la prière. La prière est le moyen établi par Dieu pour que nous puissions nous approprier les bénédictions que le Fils de Dieu nous a acquis par ses mérites, par sa vie. Et parler de cette façon indique la place suprême de la prière dans la vie chrétienne. Alors que nous allons ce matin poursuivre notre parcours de l'épître de Paul aux Colossiens, nous allons voir un peu plus, d'une façon précise, quelle sorte de requête de prière l'apôtre Paul avait pour les Colossiens. Au verset 3, la dernière fois, nous avions vu que Paul il disait qu'il priait sans cesse pour eux, sans nous dire au juste qu'est-ce qu'il demandait pour eux. Maintenant, il va nous dire en détail c'est quoi au juste qu'il demande pour les Colossiens dans ses prières. Et ceci est très instructif pour nous. Avant de regarder plus spécialement ces requêtes particulières, j'ai deux remarques importantes pour nous à faire et je vais introduire chacune de ces remarques par une question. Première remarque, quand priez-vous avec le plus de ferveur? N'est-il pas vrai que dans nos vies, nous sommes portés à prier avec le plus de ferveur quand nous sommes vraiment mal pris, quand nous sommes malades, quand nous sommes devant une grande difficulté, quand nous avons une décision difficile à prendre, quand nous sommes dans le trouble, c'est là souvent que nous prions avec le plus de ferveur. Et ce n'est pas mauvais, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de prier avec ardeur et ferveur lorsque nous sommes devant des difficultés particulières. Mais si c'est la seule occasion dans laquelle nous prions, nous passons à côté de quelque chose que l'apôtre Paul nous indique dans ses prières. Parfois, nous pensons qu'il faut prier quand ça va mal. Et quand ça va bien, eh bien, nous ne prions pas. Mais l'apôtre Paul, ici, ne pensait pas de cette façon-là. Regardez bien, il commence le verset 9 en disant « C'est pourquoi ». C'est pourquoi. Ça veut dire qu'il y a un lien avec ce qu'il vient juste de dire avant. Et on a vu la dernière fois dans les versets 4 à 8, qu'est-ce qu'il avait dit. Il avait dit, entre autres, que les Colossiens avaient reçu l'Évangile, qu'ils étaient habités par une grande espérance, qu'ils aimaient tous les saints, qu'ils portaient beaucoup de fruits. Autrement dit, ça allait bien, ça allait très, très bien. Et pourtant, l'apôtre Paul dit « Je ne cesse de prier pour vous », même quand ça va relativement bien. Si nous sommes dans une réunion de prière et que quelqu'un dit « Bien, j'aimerais ce soir qu'on prie pour M. Untel ou pour la famille », la réaction spontanée, c'est toujours de dire « Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont eu un accident? Sont-ils malades? Ils ont-ils un gros trouble? » Non, ils sont bien corrects. Mais même quand ça va bien, nous pouvons prier, supplier, intercéder le Seigneur pour que ça aille mieux. Hein? Parce que vous pourriez dire « Oui, mais pourquoi prier pour quelqu'un si ça va bien? » Mais pour que ça aille mieux, pour que le Seigneur continue de donner à cette personne ou à ces personnes un accroissement supplémentaire, pour continuer d'affermir en eux sa bénédiction, parce qu'il n'y a personne qui peut dire « Moi, j'ai atteint un niveau où je n'ai plus besoin de prière. » Non, il y a toujours de la place pour amélioration. Et l'apôtre Paul semble dire aux Colossiens « Je suis très encouragé parce que Dieu fait dans votre vie, il y a beaucoup de belles choses, il y a beaucoup de progrès. Et je veux m'appuyer sur cette belle chose, ces bénédictions que Dieu vous donne, pour demander encore au Seigneur qu'il accroisse encore sa force, son soutien, ses secours pour vous, pour que vous puissiez avancer vers cette perfection à laquelle le Seigneur nous appelle. Même quand les choses vont bien, on est appelé à prier. Deuxième remarque, deuxième question. Est-ce que toutes vos prières tournent autour de vous-même? Si 99% de nos prières tournent autour de nous-mêmes, notre santé, la guérison de nos bobos, notre réussite au travail, nos succès financiers, notre réussite à l'école, toutes des choses qui ne concernent que nous-mêmes. Nous sommes encore une fois en train de passer à côté de quelque chose que l'apôtre Paul nous enseigne par ses prières. Nous sommes peut-être dans un processus de paganisation de notre vie ou de notre prière. Comprenez-moi bien, je ne dis pas que nous n'avons pas le droit ou qu'il ne convient pas de présenter au Seigneur des requêtes pour nos besoins, puis nos maladies, puis notre santé, tout ça. Non, 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 il y a toute une place pour ça, très importante. Le Seigneur nous commande de lui faire connaître nos demandes. Ceci est très important, c'est notre joie. Mais si ça ne se limite qu'à ça, tout le temps, nous sommes en train de manquer quelque chose que nous voyons dans les prières de l'apôtre Paul. Quand nous regardons l'ensemble des lettres de Paul, les sections où il est en train de prier sont très, très riches et nous montrent des choses que parfois nous ne sommes pas portés à voir. L'apôtre Paul n'était jamais allé à Colosse. Il ne connaissait pas grand monde dans cette assemblée de Colosse. Il connaissait Épaphras, bien sûr, peut-être quelques autres. Oui, mais il n'était jamais allé là. Ce n'est pas lui qui avait fondé cette église. Et là, il est loin, probablement à Rome, en prison. Et il prie sans cesse pour ces personnes-là. Et dans ses prières ici, bien sûr, il n'est pas question de lui-même et du fait qu'il est en prison. Sans doute qu'il avait des prières pour lui qu'il faisait, mais ici, il prie pour ces personnes-là, pour d'autres chrétiens. Et ceci est très intéressant et important pour nous. Nous aussi, nous avons à apprendre à prier pour les autres chrétiens, pour les autres autour de nous, pas juste pour nous-mêmes. Bien sûr, Pour tous les chrétiens du monde entier, on ne peut prier que d'une grande façon générale, mais il est important que nous apprenions à nous intéresser aux autres chrétiens et à prier pour eux, à savoir comment bien prier pour eux. Et dans le texte qui est devant nous, justement, l'apôtre Paul nous enseigne, nous donne des bons indices sur des exemples de requêtes que nous pouvons présenter pour les autres chrétiens. Verset 9. « Nous ne cessons de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. » C'est une requête, hein? C'est plus que « Seigneur, fais que tout aille bien », comme parfois on dit dans nos prières. Ici, Paul veut que ceux pour qui il prie soient remplis. Remplis de quoi? Remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Pour l'apôtre Paul, on pourrait dire pour toute la Bible, Dieu nous appelle à avoir une connaissance de sa volonté qui n'est pas la plus minimale possible, mais il veut qu'on soit remplis de ce qu'il veut, de c'est quoi sa volonté, de ce qu'il attend de nous. Pour que ce remplissage de la connaissance de sa volonté ait un impact maximum dans nos vies. C'est très important de savoir ce que Dieu veut. Qu'est-ce qu'il veut, Dieu? La volonté de Dieu se trouve dans sa parole. Ici, il n'est pas question seulement de la volonté de Dieu pour moi ici, aujourd'hui. Quel travail je devrais avoir? Quelle personne je devrais épouser? Quelle église je devrais choisir? Non, mais c'est l'ensemble de la volonté de Dieu, le dessein de Dieu, sa volonté pour nous, quelle est-elle? Et nous voyons dans sa parole qu'il nous en dit beaucoup sur sa volonté. Sa volonté, c'est que nous croyons en Jésus-Christ, son Fils. Sa volonté, c'est notre sanctification. Sa volonté, c'est que nous soyons remplis de l'Esprit-Saint. Sa volonté, c'est que nous nous soumettions aux autorités. Sa volonté, c'est que nous vivions des vies pleines de reconnaissance, etc., etc. Dieu nous révèle dans sa parole, c'est quoi sa volonté pour nous? Et Paul prie que les Colossiens soient remplis de la connaissance de cette volonté-là, cette volonté de Dieu, qui est bonne, qui est parfaite, qui est agréable pour le peuple de Dieu. Étudier la Bible avec foi et humilité en étant guidé par le Saint-Esprit nous place dans la volonté de Dieu, nous instruit sur la volonté de Dieu. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Sagesse, une intelligence spirituelle, c'est-à-dire donnée par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui était la source de la sagesse et de l'intelligence. Et Paul prie qu'il puisse avoir cette connaissance de la volonté de Dieu, être rempli par l'action puissante de l'Esprit en eux. Au chapitre 2, Paul va mettre en garde les Colossiens contre ceux qui ont une apparence de sagesse. Il va dire, faites attention, il existe toutes sortes de faux enseignants. Ils ont une apparence de sagesse. Mais ici, il parle de la véritable sagesse qui est le fruit de l'Esprit-Saint. Prier pour recevoir de Dieu la connaissance de sa volonté avec intelligence et sagesse est un aveu que nous n'avons pas ces choses-là en nous-mêmes. Hein, notre intelligence, notre sagesse, elle ne va pas loin quand nous sommes laissés à nous-mêmes. Il y a beaucoup de corruption là-dedans. Mais c'est un aveu que nous n'avons pas ça. Le réformateur Jean Calvin dit, « Je reconnais que cela peut nous sembler bien dur de dire ça, qu'on n'a pas la sagesse et l'intelligence. » Car il est pénible de se voir dépouillé de ce que nous estimons être nos qualités les plus précieuses. Mais quand le Saint-Esprit nous fait désirer le renouvellement de notre intelligence, il nous enseigne de cette façon que la nôtre, elle est insuffisante. Combien est grande la nécessité pour nous de demander ces choses à Dieu? C'est vrai, hein? Combien est grande pour nous la nécessité de demander à Dieu la sagesse, l'intelligence, la connaissance de sa volonté? Combien c'est une grande nécessité? Au verset 10 et 11 de notre texte, dans notre version, nous avons les verbes « marcher »,« porter », »,« croisser », »,« devenir » à l'impératif. Et on pourrait avoir l'impression qu'on n'est plus dans la prière de Paul, mais que Paul se met à donner des exhortations ou des commandements en quelque sorte pour exhorter vivement les Colossiens. Mais ce n'est pas tout à fait le cas. On est encore dans la prière de Paul. Des traducteurs de la Bible ont mieux indiqué le lien entre le verset 9 et les versets 10 et 11 en traduisant comme ceci. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, de telle sorte que vous marchiez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue, portant des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissant dans la connaissance de Dieu, devenant puissant à tous égards par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérants et patients. Autrement dit, si nous sommes remplis de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence, ça va produire dans nos vies quelque chose. Ça va produire quoi? Eh bien, ça va nous faire marcher d'une certaine manière. Ça va nous faire porter certains fruits. Ça va nous faire croître dans certains domaines. Ça va nous faire devenir quelque chose ou quelqu'un d'autre. Vous voyez, l'action du Saint-Esprit, lorsque nous sommes remplis de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence, va produire en nous des changements. Et nous voyons dans ces verbes, marcher, porter, croiser, devenir, un mouvement. Nous voyons un mouvement, hein? Ce n'est pas quelque chose qui est statique. La vie chrétienne n'est pas quelque chose où c'est le statu quo perpétuel, où c'est toujours pareil, où il n'y a pas de changement, mais il y a un mouvement, une progression, une action, l'œuvre de Dieu qui est en train de transformer ses bien-aimés. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, nous trouvons l'exhortation suivante. Nous vous le demandons et nous vous y exhortons dans le Seigneur Jésus. Vous avez appris comment vous devez marcher et plaire à Dieu. D'ailleurs, vous le faites et bien progressez encore. Il y a toujours de la place pour progresser encore, avancer avec Dieu dans cette vie nouvelle qu'il vous donne. Reprenons les quatre éléments de l'apôtre Paul au verset 10 et 11. Début du verset 10. Marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue. Paul écrit aux Thessaloniciens, « Nous vous avons adjuré de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. » Paul écrit aux Éphésiens, « Je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Paul écrit aux Philippiens, « Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile du Christ. » Autrement dit, lorsqu'on a été visité par le Christ Jésus, qu'on a reçu une vie nouvelle, il y a une façon de vivre nouvelle qui doit prendre place, qui doit s'enraciner. Une façon de marcher, de vivre, de se conduire, qui est digne du Seigneur et de son Évangile. Autrement dit, un chrétien ne vit pas n'importe comment. Il vit pour, dit Paul, plaire à Dieu à tout point de vue. Pas juste dans un domaine ou deux, mais à tout point de vue, le croyant désire plaire à Dieu. En réponse à son amour géant, en réponse à son méga amour, le chrétien a à cœur de vivre pour plaire à Dieu. Plus on connaît Dieu, plus on l'aime. Plus on l'aime, plus on veut lui plaire. Plus on veut lui plaire, plus on lui obéit. Plus on lui obéit, plus on est heureux. Parce que Dieu, dans sa sagesse, a décidé de lier ensemble l'obéissance et le bonheur. Heureux celui qui vit dans le Seigneur. Quelle sorte de paroles plaisent au Seigneur? Quelle sorte de conduite plaisent au Seigneur? Qu'est-ce qui plaît le plus à Dieu? Qu'est-ce qui déplaît le plus à Dieu? Quand on se pose ce genre de questions-là, toute notre vie peut être transformée et renouvelé. Quand on pense bien à ces questions-là et qu'on y répond, eh bien, ça va influencer notre conduite à l'égard de notre prochain. Ça va influencer ce que nous acceptons dans la vie comme responsabilité. Ça va influencer nos rapports les uns avec les autres, la gérance de notre temps, ce que nous regardons, ce que nous lisons, ce que nous faisons, comment nous utilisons les dons, les talents que le Seigneur nous a confiés. Ça va complètement renouveler tout ça. C'est ce qui se passe lorsque nous sommes remplis de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. Deuxième partie du verset 10. « Portez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes. » Qu'est-ce que la Bible entend au juste par des œuvres bonnes. Notre confession de foi dit que ce sont des œuvres qui procèdent d'une vraie foi et qui sont accomplies selon la loi de Dieu et pour la gloire de Dieu. L'apôtre Paul prie que les Colossiens portent des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes. Les œuvres bonnes ne sont pas un prérequis pour entrer en relation avec Dieu. Elles sont un fruit de la foi, du salut, de la vraie foi. Au verset 21, nous ne l'avons pas lu, mais l'apôtre Paul, il rappelle aux Colossiens qu'ils étaient autrefois ennemis de Dieu à cause de leurs œuvres mauvaises. Mais maintenant, tout est changé. Maintenant, ils ont été sauvés. Donc, fini les œuvres mauvaises. Bienvenue les œuvres bonnes. Dans son épître à Tite, Paul dit « Cette parole est certaine et je veux que tu insistes là-dessus afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à exceller dans les œuvres bonnes. Voilà qui est beau et utile aux hommes. Toi-même, sois un modèle d'œuvres bonnes. Le Christ Jésus s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. » L'apôtre Paul a souvent encouragé le peuple de Dieu à aller dans cette direction. Notre confession de foi de Westminster dit que les œuvres bonnes sont les fruits et les témoignages d'une foi vraie et vivante, et elle ajoute ceci, en parlant des chrétiens, « Leur capacité à faire des œuvres bonnes ne vient pas d'eux-mêmes, mais entièrement de l'Esprit de Christ. Et pour qu'ils puissent avoir cette capacité, il leur faut une influence effective du Saint-Esprit œuvrant en eux pour qu'ils veuillent et fassent selon son bon plaisir. Ils ne doivent pas cependant se laisser gagner par la négligence, comme s'ils n'avaient à s'acquitter d'aucun devoir, sans avoir une impulsion spéciale de l'Esprit. Ils doivent au contraire s'appliquer à mettre en œuvre la grâce de Dieu qui est en eux. » Et c'est tout à fait le sens de la prière de Paul pour les Colossiens ici. Regardez maintenant la dernière partie du verset 10. « Croissez dans la connaissance de Dieu, comme quelqu'un qui viendrait d'apprendre qu'il a reçu un héritage absolument fabuleux, une grande richesse, il veut en savoir plus, comprendre, découvrir plus. » Alors les Colossiens possédaient maintenant une connaissance nouvelle qu'ils n'avaient pas autrefois. Ils ont la connaissance de Dieu. Et ils sont appelés à croître, à grandir dans la connaissance de Dieu. Et c'est le sens, la direction de la prière de l'apôtre Paul ici pour eux. Dans son fameux livre « Connaître Dieu », James Packer dit « L'ignorance de Dieu est pour une grande part responsable de la faiblesse de l'Église d'aujourd'hui. La pensée chrétienne s'est conformée à l'esprit du temps présent, c'est-à-dire à l'esprit qui favorise le développement de grandes idées sur l'homme, tout en ne laissant subsister que de toutes petites idées concernant Dieu. La connaissance que nous avons de Dieu est bien superficielle. » Il a raison. Nous avons tous besoin, sans exception, de croître dans la connaissance de Dieu, aussi bien personnellement, individuellement, qu'en tant qu'Église, qu'en tant que peuple de Dieu. Et c'est le sens de la prière de Paul ici pour les Colossiens, et combien c'est une requête aussi qui devrait être fréquente dans nos cœurs aussi. Et puis finalement, le verset 11. Regardez ce verset extraordinaire. « Devenez puissants à tous égards par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérants et patients. » Qui ne veut pas devenir tout à fait persévérant et patient? Mais comment allons-nous devenir tout à fait persévérant et patient? Est-ce que ça va être par la pensée positive? Non. Est-ce que ça va être en nous appuyant sur nos propres forces? Non. Nous avons absolument besoin de l'œuvre divine du Saint-Esprit dans nos cœurs pour nous transformer par sa force glorieuse, nous dit l'apôtre Paul, par sa force glorieuse. La patience et la persévérance ne sont pas des valeurs très à la mode de nos jours. Nous vivons à une époque où on perd facilement patience, où les gens désirent des solutions rapides, ils recherchent un succès instantané, ils chérissent la victoire maintenant et les triomphes faciles. Combien nous avons besoin de supplier Dieu d'œuvrer en nous par son Saint-Esprit pour nous rendre tout à fait persévérants et patients. Ces vertus vont nous permettre de supporter avec courage les persécutions dans ce monde. Ces vertus vont nous permettre de rester calmes et en maîtrise de nous-mêmes lorsque nous serons insultés ou offensés. Ces vertus vont nous soutenir puissamment quand nous allons souffrir, passer par des temps de difficultés, d'afflictions, de tribulations. Nous allons pouvoir tenir ferme par la patience et la persévérance que donne le Seigneur. Au verset 29, que nous n'avons pas lu, toujours au chapitre 1, Paul dit qu'il combat avec la force de Dieu qui agit puissamment en lui. C'est cette force glorieuse dont il parle au verset 11 ici. Et c'est comme ça que nous devons vivre la vie chrétienne, par la force glorieuse qui agit en nous. C'est comme ça que nous devons continuer d'avancer dans notre marche chrétienne, pour que Dieu nous apprenne à désapprendre nos mauvaises attitudes, pour que Dieu nous conduise à l'obéissance plus grande, plus ferme, plus soutenue, plus constante. La persévérance et la patience étaient parfaites en Jésus-Christ, notre Sauveur, qui est allé jusqu'au bout de sa mission par amour pour nous. Et nous, si nous voulons vivre d'une manière digne de lui, nous devons avoir à cœur d'avancer avec lui vers la patience et la persévérance que donne le Seigneur. Bien sûr, nous sommes loin de l'avoir comme lui, il l'avait, bien sûr. Ça nous rappelle les paroles du cantique fameux de Luther qui dit « Seul, nous bronchons à chaque pas. Notre force est faiblesse. Mais un héros dans les combats pour nous lutte sans cesse. » Et ce héros, c'est le Christ Jésus qui, pour nous, lutte sans cesse. Lui, il intercède pour nous, continuellement, dit l'épître de Paul aux Romains. Il intercède pour nous. Il nous a à cœur. Il est toujours écouté par son Père. Il est cet intercesseur désigné par Dieu le Père pour intercéder pour nous. Il connaît Dieu parfaitement, il nous connaît parfaitement, il sait comment intercéder aussi bien en prenant en compte la loi de Dieu qu'en prenant nos faiblesses, nos difficultés, nos misères. Il a souffert, il nous comprend et il est celui qui intercède pour nous. Ce grand héros dans les combats, lorsque nous faiblissons, lorsque nous tombons, lorsque nous bronchons à chaque pas, il est là, il nous soutient, il nous aime. Il intercède avec ardeur et ferveur pour nous. Il est notre paix. Quel sauveur merveilleux nous avons. Amen.